Bonsoir, avalanche de surprises, coup de tonnerre, vous appelez ça comme vous voulez, en tout cas ça vaut désormais plus de 1 milliard d'euros. Il y a un beau paquet donc pour l'attribution eh bien, des droits télé de la Ligue 1 de football avec un grand gagnant, le sino-espagnol Mediapro, et puis une lourde défaite, c'est Canal+, hein, vous savez, qui assurait la diffusion de la compétition maintenant depuis 34 ans. 1 milliard 150 millions d'euros. Autant que la Bundesliga, plus que la Liga espagnole. Alors le foot français joue-t-il enfin dans la cour des grands? Voici les décodeurs de l'écho.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Et avec l'un des héros eh bien, de ces dernières 24 heures, c'est Didier Quillot, directeur général de la Ligue de football professionnel. Il est sur le plateau des décodeurs de l'écho avec Virgile Caillet, délégué général d'Union Sport et Cycle. Simon Tenenbaum, journaliste spécialiste des médias ici à BFM Business. Et quand on parle de football, eh bien, Pascal Perry vous a rejoint. Il est économiste, directeur de PNC Économique. Alors, avant de voir eh bien l'avenir de Canal+, avant de voir également qui va diffuser quoi, quel jour, quelle heure, on va quand même regarder le montant quand même. 1 milliard 153 millions d'euros par an pour la période 2020-2024. C'est 60% de mieux que la dernière fois et c'est sans compter deux lots, le N5 et le N7, qui n'ont pas encore été attribués. Je cite le président de la 3F, la Fédération Française de Football, Monsieur Le Graët, qui disait cet après-midi « Chapeau, le chiffre est phénoménal, c'est un coup de maître ». Plus d'un milliard d'euros, Didier Quillot. Comment on en arrive là?
Bonsoir.
Bonsoir.
D'abord, je voudrais corriger ce que vous avez dit. Ah, il y a trois gagnants. Donc Mediapro, donc l'opérateur de télévision espagnol, donc sur lequel j'imagine on va revenir dans un instant.
C'est le gros gagnant.
C'est le gros gagnant. Bein, partenaire historique de la Ligue, qui a, dans les lots qu'il a gagnés, il a gagné le choix des matchs de choix 1.
Samedi à 21h et le dimanche à 17h.
Et donc il a aussi, l'appel d'offres était un peu sophistiqué. Et donc Bein a gagné ce qu'on appelle les choix du groupe A, dans lesquels il y a les principales affiches, hein, donc en particulier le PSG, par exemple, sera diffusé pratiquement une fois sur deux sur Bein.
Et puis, ils sauvent les meubles. Voilà, ils sauvent les meubles.
Je n'emploierai pas cette expression, je dirais. Et ensuite Free, donc un opérateur télécom qui a gagné le lot digital dans ce qu'on appelle le Near Live. Voilà. Bon. Donc, comment en arrive-t-on là? Ben, c'est très simple. Hein, le résultat d'un appel d'offres, c'est la rencontre entre un produit et puis des acheteurs. Le produit, c'est la Ligue 1. Le produit, depuis 2 ans, on l'a amélioré. Il y a plus de buts en France qu'il y en avait. C'est spectaculaire. Donc, on a eu le record de buts historique cette saison. On est en nombre de buts par match de deuxième pays d'Europe. Il y a plus d'affluence dans les stades, plus 10% cette année, plus d'audience à la télévision, des nouveaux stades livrés grâce à l'Euro 2016, des investisseurs, des stars à Paris, mais pas seulement à Paris. Donc, objectivement, la qualité du produit s'est améliorée. Et en face de ça, on a beaucoup travaillé, les services de Ligue, il n'y a pas un héros, il y a une équipe de travail, les clubs et la Ligue. On a ensemble préparé un appel d'offres que certains ont trouvé très compliqué, que nous avons toujours qualifié de très sophistiqué. Donc, on a beaucoup travaillé.
Vous ne devriez pas vous occuper de football, mais peut-être de politique ou de diplomatie, comme vous parlez justement.
Politique certainement pas, mais diplomatie peut-être. Un appel d'offres très sophistiqué et puis beaucoup de travail. Ouais. Donc avec Mathieu Ficot, donc de la Ligue, on a été voir beaucoup de candidats potentiels en France, en Europe et aussi aux États-Unis.
Vous allez.
Et le résultat de tout ça, ben ça fait la rencontre entre un produit qui s'améliore et une tension compétitive maximale. Et ce, 1 milliard 153 millions d'euros, sans SFR, je suis désolé de le dire ici, et sans les GAFA.
SFR justement qui n'avait pas concouru dans cette
qui a décidé de ne pas concourir.
Qui avait décidé. On y reviendra, on écoutera la veille tout à l'heure justement. On verra s'il y a une séance de rattrapage. Oui, et puis vous nous racontez aussi la rencontre quand même avec ce groupe que tout le monde a découvert quelque part, Mediapro, groupe sino-espagnol. Oui, tiens, les autres, qu'est-ce que ça traduit ce chiffre? C'est un tournant ou pas, Pascal Péric?
Oui, moi je pense que le football français est maintenant vendu à son vrai prix, c'est-à-dire qu'il a été pendant très longtemps mal considéré, il a été insuffisamment payé par les chaînes de télévision. C'est une industrie.
Pour quelle raison ça avait été minoré?
Parce qu'il faut toujours se comparer, ouais. Et que quand on comparait les chiffres, la valeur du football français comparé à d'autres championnats qui, sur le plan sportif, sont très proches, les diffuseurs ne contribuent pas suffisamment, à mon sens. C'est un spectacle de qualité, comme l'a dit Monsieur Kio. Ouais. C'est un spectacle audiovisuel. Il y a aujourd'hui un vrai engouement autour du football. Le niveau sportif s'est apprécié, la qualité de diffusion des matchs aussi. Je pense qu'il y a un intérêt constant du public français pour la Ligue 1, même si on aime beaucoup la Ligue des Champions. La Ligue 1, ça reste le feuilleton préféré des Français d'une certaine façon. Donc ça a une vraie valeur.
Qui sera sur RMC Sport, on en parlera.
Sur RMC Sport. Ah oui. À ce sujet d'ailleurs, peut-être qu'on va voir réapparaître SFR. Qui sait? Je veux dire, vous savez, il y a souvent une affaire de calendrier, hein, et je crois que l'entreprise avait averti qu'elle n'était pas prête au moment où l'appel d'offres a été passé. Maintenant, il y a des contrats de concession possibles sur une partie des lots, une partie des rencontres. Donc peut-être que de nouveaux acteurs vont rentrer dans le jeu de diffusion du football. Reste maintenant à travailler peut-être ce qui reste le point faible du football français, c'est-à-dire sa valeur sur les marchés internationaux, la valeur des droits internationaux du football français. Quand on compare avec les Anglais, faut ajouter un zéro, pratiquement. Donc vous voyez que il y a pas un tel écart sportif entre le championnat de Première Ligue et la Ligue 1, et donc il reste beaucoup à faire. Mais bravo, parce que c'est vraiment un coup de maître.
Virgile Caillet, la Première Ligue, 2,3 milliards d'euros, la Bundesliga, quasiment... L'adjudication, donc, conclue par la Ligue de football professionnel, donc on est à 1,16 milliard. La Liga espagnole, 1,1 milliard, puis le championnat italien, un petit peu moins, le championnat, un petit peu moins d'1 milliard. C'est aussi le juste prix pour vous? Ça y est, ça rééquilibre un
Alors,
peu?
Alors, on assiste incontestablement à un phénomène de rattrapage. Est-ce que c'est le juste prix? Je pense que il n'y a pas d'argus du prix d'un championnat. Il y a juste, comme l'expliquait Monsieur Kio, une offre et une demande, et parfois ça match. Là, en l'occurrence, ça a matché de manière assez... Alors, j'allais dire inespérée. Je pense qu'il y a beaucoup de présidents de clubs qui espéraient justement non seulement passer la barre symbolique du milliard, mais peut-être aller plus loin. Moi, je dois reconnaître que j'étais un peu dubitatif, parce que au-delà de l'offre et de la demande, donc le produit qui incontestablement s'améliore depuis 2 ans et une concurrence un peu exacerbée, il faut aussi que ça corresponde à un timing. Je reconnais que je faisais partie de ceux qui étaient peut-être un petit peu dubitatifs sur ce timing, parce qu'on sentait bien qu'il y avait une forme de réticence à la fois, vous l'avez dit, du groupe Altice, mais aussi de Canal, qui n'était pas quand même complètement enjoué, et Bein qui regardait ça avec un œil quand même un peu sceptique sur cet emballement. Là où la Ligue a probablement particulièrement bien joué le coup, parce que on n'a pas tous les décodeurs, et peut-être que là vous allez nous aider à apporter ces décodeurs, c'est comment on arrive avec cet OVNI Mediapro, qui est inconnu en France, mais très connu dans le monde des droits sportifs, mais qui n'est pas une chaîne de télé. Donc on ne l'a pas vu venir comme ça, sous cet angle-là. Et c'est ce timing qui effectivement fait, à mon avis, la réussite de cet appel d'offres.
Didier, vous êtes aussi le grand gagnant aussi, quelque part, la Ligue de football professionnel. Il n'y a pas que Mediapro,
les clubs.
Bein,
non, c'est pas la Ligue, ce sont les clubs. Les gagnants sont les clubs. Parce
on en parlera tout à l'heure, Jean-Michel Aulas.
Et en fait, c'est une reconnaissance du travail accompli par les clubs. Donc, et en effet, certains espéraient plus du milliard. Et effectivement, là, maintenant, ils l'ont, et de manière assez significative. Sur le timing, je suis d'accord avec vous. J'ai oublié tout à l'heure, il faut tout ça, hein, le produit, la compétition, le travail, la sophistication des enchères, et puis il faut le timing. Moi, je me souviens de mes anciens patrons chez Orange, Thierry Breton, qui me disait que en management, timing is everything. Voilà. Bah, en fait, moi, j'ai jamais douté, et au-delà de ça, j'ai toujours dit, nous lancerons en 2018.
Qu'est-ce qui a fait que le timing...
Je pense que les gens ne nous ont pas cru, ont essayé de nous influencer, ont essayé d'agir par la porte et par la fenêtre pour nous faire reculer. Et on n'a pas dévié la ligne. Vous pouvez reprendre mes déclarations depuis près d'un an. J'ai dit, on lancera au printemps 2018. Après, j'ai un petit peu modulé en disant avant l'été, après l'été, parce que il faut mettre un petit peu de suspense. Mais dans mon esprit, c'était extrêmement clair. Pourquoi? Parce que le championnat avait progressé, petit 1, parce qu'effectivement, j'étais tout à fait au courant des difficultés passagères, entre guillemets, de SFR à l'automne, mais j'ai pensé que entre avant l'été ou après l'été. Moi j'ai passé 12 ans chez un opérateur de télécom, Orange, et je pense qu'il faut plus de 6 mois pour redresser un opérateur télécom, et j'ai donc pensé que votre maison mère, si elle avait l'appétit pour la Ligue 1, que ce soit avant ou après l'été, elle serait là. Bon, et donc après,
maison mère, on le rappelle,
et puis ensuite il y a eu surtout, je crois, ce qui a fait pour nous le déclic, c'est la possibilité de sous-licencier, et donc en sous-licenciant on a ouvert le jeu à des acteurs nouveaux qu'on a été voir avec Mathieu Ficot, des Infront, des IMG, des Mediapro, et en voyant ces acteurs nouveaux, on a compris que certains, enfin en particulier un d'entre eux, Mediapro, était prêt, à condition que ça aille vite. Et donc quand on a additionné tout ça, on s'est dit il faut y aller maintenant, voilà. Et on n'a pas dévié la ligne. Et je suis très heureux de pas avoir à dévier la ligne.
Mediapro, Simon Tenenbaum, Mediapro que la France entière quasiment a découvert donc hier soir. Non, je dis la France entière. Pascal, vous êtes
pas les amateurs,
vous êtes les professionnels de la profession, vous. Hein.
Oui.
C'est qui Mediapro, Simon?
C'est un groupe espagnol catalan au départ qui existe depuis longtemps, hein, presque 25 ans.
De 6000 personnes, opérateurs de télévision.
Au départ, c'est plus un spécialiste, on va dire, de la production audiovisuelle, qui ils sont spécialisés, voilà, dans le tournage de matchs, dans toutes les solutions techniques.
Une sorte de VCF espagnol, c'est ça,
Euromédia, oui, tout à fait.
Un peu ça.
Et ensuite, donc, ils sont allés dans les droits sportifs au départ en Espagne, où ils ont racheté, voilà, les droits de la Liga espagnole et d'autres droits européens. Et voilà, là ils sortent de leurs frontières, ils sont allés en Italie donc pour acheter les droits du championnat italien. Bon, ça vient d'être cassé en justice, donc on verra ce qui va se passer en Italie, et voilà, ils arrivent en France.
Ça vous a pas fait peur, là, cette histoire italienne?
Elle s'explique. Alors pas du tout, parce qu'elle s'explique très bien. En Italie, il y a plus de patron de la Ligue depuis 6 mois. Il y a plus de gouvernance en Italie, donc à la Ligue depuis même plus de 6 mois. Ils ont lancé 3 appels d'offres successifs en 6 mois, 3 appels d'offres infructueux, parce que les appels d'offres ont été rédigés n'importe comment. Donc, et le résultat des courses, c'est qu'on ne sait pas qui pouvait bider sur quel lot pour repackager les lots ou pas. Et donc, il y a effectivement un conflit aujourd'hui. C'est pas du tout un défaut de paiement, hein, de Mediapro, comme ça a été dit. C'est pas du tout un défaut de paiement. C'est un conflit, en effet, entre Sky et Mediapro. L'origine de ce conflit, elle est dans une écriture absolument pas clair de l'appel d'offres, qui fait qu'aujourd'hui, et d'ailleurs ce n'est pas terminé en justice, donc je me garderai bien de tout pronostic. Par contre, en ce qui concerne la situation française, qui est, je le rappelle, complètement différente, notre appel d'offres, il a été très clair, donc quelqu'un peut candidater et sous-licencier à condition qu'il soit éditeur de service, et la proposition que nous avons reçue de Mediapro, c'est bien une proposition de chaîne, d'éditeur de service, qui va chercher, comme il le fait en Espagne, des accords de distribution auprès de fournisseurs d'accès Internet, Orange, Bouygues, SFR, Free, peut-être CanalSat, d'ailleurs, pourquoi pas. Et en tout cas, il fait le métier d'éditeur en Espagne, de la chaîne La Liga, et il le distribue à travers Vodafone, Orange, Telefonica, des opérateurs espagnols.
Il y aura une nouvelle chaîne, c'est ça, qui va être créée?
Il y aura une nouvelle chaîne, bien sûr.
Oui, Virgile Caillet.
Oui, non, je voulais parler un petit peu de Mediapro, parce que effectivement, on est quelques-uns à connaître l'acteur. Néanmoins, auprès du grand public, il est totalement inconnu. En plus, on sait qu'il y a, il est passé sous pavillon chinois. Donc,
dans le groupe Orient Pantai Capital, qui gère des activités dans le cinéma, la production, les droits télé, puis un petit peu de WPP aussi dedans.
C'est ça, c'est ce que je voulais préciser, parce qu'on pourrait imaginer que ce soit un peu exotique, etc., le fantasme autour du football chinois, etc.
C'est un groupe espagnol.
Mais dans ce groupe, il y a un actionnariat aussi anglais, hein, WPP. Sir Martin Sorrell, donc
c'est toujours vivant, mais en tout cas il a d'autres activités,
voilà. Donc c'est du solide, donc je pense que c'est un groupe qui a une surface financière assez importante. Moi je suis pas aussi convaincu, mais je comprends que monsieur Quillot soit convaincu. Je pense quand même que l'histoire n'est pas finie. Pour ouvrir une chaîne, il faut effectivement l'autorisation du CSA, il y a un certain nombre d'étapes, il y a cette concession, ce sous-licensing possible, donc je pense qu'on va encore avoir pas mal de rebondissements. Je pense que les téléphones ont vibré un petit peu aujourd'hui, même
tremblé même
beaucoup,
peut-être pour certains.
Mais l'histoire n'est pas terminée en tout cas.
Ouais, ça s'est fait dans la discrétion la plus complète, cette histoire. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Qu'est-ce qui fait que Mediapro a tiré le gros lot? En quoi ils étaient les plus beaux?
Ils ont
payé combien?
Donc ils n'étaient pas les. Donc ils ont payé un petit peu moins de 800 millions d'euros pour les lots qu'ils ont. Et le reste, c'est donc Bein et Free. dont on ne parle pas assez.
Non.
Puisque je le rappelle, Bean est gagnant de cet appel d'offres. Hein, donc il va avoir en particulier, il a des 28 choix 1. Donc 28 choix 1, ça veut dire qu'il y aura très souvent le PSG ou l'OM sur les antennes de Bean.
Bien sûr,
très souvent.
Ouais, bien sûr.
Et Free,
ouais.
Donc qui a mis le prix pour acheter le lot digital, qui va utiliser sa base de près de 9 ou 10 millions d'abonnés mobiles pour avoir des offres d'alerting, comme l'on dit, des highlights de match. Donc Free est sort gagnant aussi parce qu'il entre dans le monde du football avec, je dirais, une stratégie très maline, donc de proposer des highlights. Enfin, c'est d'ailleurs, moi, quand j'étais à la tête d'Orange, on avait pris ce lot-là dans les années 2000. Je pense qu'à l'époque, c'était un peu tôt. Maintenant, c'est le bon timing.
C'est le bon timing.
Mais
timing
pour répondre à votre question, c'est pas les plus beaux. Hein. Donc, il y avait des offres qualitatives qui devaient être mises par les candidats. Et ensuite, une séquence d'enchères. Donc, 7 lots avec des enchères séquentielles. Il fallait remettre une offre en aveugle avec un huissier qui était chez les candidats. Et ensuite, on ouvrait les plis et c'était le meilleur qui gagnait.
Ouais, alors 800 millions. Alors je ne sais pas s'il agit en bon ou mauvais joueur. Maxime Saada, donc le patron de Canal, se demandait ce matin dans quelle mesure Mediapro est capable d'aller au bout de sa démarche financièrement et d'obtenir la valeur nécessaire pour justifier des montants comme ça. T'as rentabilisé comment Mediapro?
Plusieurs arguments.
C'est faisable. Pascal Perry.
D'abord, oui. Enfin, la création d'une chaîne de télévision. Il y a beaucoup de leviers de financement quand on vend le spectacle sportif le plus populaire du monde. Il y a une vraie matière là dans ce domaine. Ce que je retiens moi, c'est que la concurrence des diffuseurs subsiste et finalement, c'est très bien. C'est très bien, c'est bon pour le football français. Le football français a connu une période qui était une période de monopsone, c'est-à-dire qu'il y avait un seul acheteur pratiquement et il fallait passer sous les fourches codines de cet acheteur. Il achetait le prix qu'il souhaitait. Ouais. Bon, aujourd'hui,
on est dans une autre dimension. Comme
on est dans
Madame
Boyle-Delatour,
la présidente de la Ligue 1
double,
a changé de dimension.
Elle a changé de dimension. Elle a parfaitement raison dans ce domaine, d'une part, mais d'autre part aussi parce que derrière Mediapro, il y a des Chinois et moi je crois que c'est pas tout à fait anodin. La Chine a un grand intérêt pour le football européen.
Bah, ils arrivent même à faire jouer des matchs de Ligue 1 à 13h.
C'est formidable. C'était une formidable expérience. On a doublé ou triplé, enfin, sous votre contrôle.
On a fait x15.
Voilà, on a fait x15 l'audience. Ça démontre quoi? Ça démontre que ce football n'était pas suffisamment exposé, qu'on est dans le cadre d'une activité qui est mondialisée. Aujourd'hui, il y a un immense réservoir de population de l'autre côté du monde qui a une capacité contributive élevée. Moi, je pense que, en effet, c'est un tournant pour le football français et que enfin on va pouvoir le valoriser à sa vraie valeur. En France, vous savez, on a toujours tendance à brûler ses vaisseaux. Or, on a un championnat qui est au moins, à mon sens, aussi attractif que le championnat espagnol, que le championnat italien, c'est l'évidence, que le championnat allemand. Il a de la valeur et aujourd'hui, il y a de vrais leviers pour le vendre à son prix.
Et le levier, c'est l'un des leviers, c'est l'Asie, Didier Quillot, justement, le fait qu'il y ait des capitaux chinois dans ce groupe Mediapro, ce groupe espagnol. Quelque part, ça va valoriser encore mieux le football français.
Alors, Pascal Perry en a parlé tout à l'heure, en effet. Donc là, on a fait l'appel d'offres sur les droits domestiques. Je pense que maintenant, il faut en effet qu'on rattrape notre retard sur les droits internationaux. Ça, c'est le prochain job donc de la Ligue, donc avec notre distributeur exclusif Bein. Donc il faut en effet qu'on améliore très significativement la valeur de nos droits, en particulier en Chine. C'est la raison pour laquelle on a ouvert un bureau en Chine il y a 2 ans, pour laquelle on a décalé des matchs à 13h, pour laquelle on va faire le trophée des champions cette année, le 4 août, en Chine. Donc il y a 4 zones géographiques prioritaires pour nous. La Chine, parce que Pascal l'a rappelé, c'est un bassin de population extraordinaire. L'Afrique, parce qu'effectivement, en Afrique, c'est de là, c'est d'abord, ça parle français dans la moitié de l'Afrique, de mémoire, je parle sous votre contrôle. Et puis parce que les centres de formation, enfin, les joueurs africains donc sont parmi les meilleurs dans nos centres de formation. Donc il y a des ponts naturels entre le continent africain et la France. L'Amérique du Sud, évidemment, parce qu'on a une forte colonie de joueurs sud-américains dans nos clubs, au PSG, mais pas seulement. Et ensuite, l'Amérique du Nord, parce qu'on a des investisseurs américains comme Frank McCourt à Marseille qui sont venus et qui montrent que le football est aussi un business.
Le football français devient attractif.
Est un business. Mais et c'est avec ces investisseurs qu'ils vont nous aider par leur expertise marketing à développer notre produit dans leur continent.
Alors, on a beaucoup parlé très bien, 1 milliard. Ça va coûter combien aux téléspectateurs? s'abonner à ces nouvelles chaînes.
C'est un piège, Fabrice.
Bah, c'est une question que je me pose.
On attend effectivement cette chaîne. Mediapro s'est empressé de rassurer tout le monde en annonçant effectivement le lancement d'une chaîne. Il y a quand même un certain nombre d'étapes préalables. Évidemment, s'il y a cette chaîne, il faudra s'abonner à cette chaîne, mais aussi à Beansport, parce que vous l'avez dit très justement, parmi les, j'allais dire, les diffuseurs historiques, il y en a un qui est vraiment très historique et deux autres qui diffusent du football en France. C'est le seul Beansport qui peut revendiquer encore d'avoir de la Ligue 1. Donc effectivement, ce sens-là, je trouve que c'est plus que sauver les meubles, ça reste une place forte du football français.
Alors Simon Tenenbaum et Didier Quillot qui va répondre.
Non, sur le prix, ce qui va être aussi déterminant, c'est l'attitude des opérateurs télécoms, puisqu'il va y avoir une discussion entre Mediapro et les opérateurs pour la reprise de la chaîne. Juste. Ça peut avoir un impact sur le prix, et il faut voir comment les opérateurs ou Canal ensuite repackage cette chaîne pour avoir une offre complète de Ligue 1, un tarif attractif, etc. Et si les opérateurs font un chèque à Mediapro en disant il nous faut absolument la Ligue 1 chez les abonnés d'Orange, voilà, ça peut aussi être moins cher du coup pour les téléspectateurs.
Oui, mais ceux qui n'ont pas été retenus ou ceux qui n'ont pas concouru, justement, est-ce qu'il y a une chance de rattrapage? Voilà ce que disait justement Alain Veil ce matin au moment de la présentation de son nouveau bouquet de chaînes sportives RMC Sport. Alain Veil qui est donc le PDG d'Altice en France, et on revient tout de suite.
Didier Quillot hier soir m'a proposé de rencontrer le président de Mediapro. On le fera rapidement pour discuter. C'est vrai que nous, on a dit que le timing n'était pas bon pour nous pour s'intéresser à la première ligue de football. C'était trop tôt. On veut faire les choses étape par étape. Et c'est vrai qu'avec l'arrivée de Mediapro, qui a la possibilité de revendre certains lots, on pourrait être amené à discuter pour voir ce qui se passera un peu plus tard, si le calendrier de Mediapro est compatible avec le nôtre.
Alors donc, il y aura des séances de rattrapage pour tous ceux qui n'ont pas été retenus, les médias pro, au-delà de médias pro, Bein, Free.
Je voudrais répondre à la question précédente pour le téléspectateur, oui, parce déjà que c'est important. Il y a aujourd'hui deux chaînes, Canal et Bein, et des distributeurs, les fournisseurs d'accès Internet et CanalSat. À partir de 2020, il y aura deux chaînes, Bein et la chaîne éditée et produite par Mediapro, et il y aura des accords de distribution qui seront passés avec des fournisseurs d'accès. Et donc, comme Simon le disait tout à l'heure, le prix pour le consommateur, ça sera le prix, il sera fixé par le distributeur, le fournisseur d'accès.
Mais vous avez demandé à ce que Mediapro soit pas trop gourmand.
Nous on n'intervient pas sur le prix. Ouais. Sinon il y a plus de liberté d'entreprendre. Donc nous on n'intervient pas sur le prix. Nous on définit un produit. Nous on définit un cahier des charges éditoriales, le nombre de caméras. La qualité éditoriale, et ensuite le producteur, l'éditeur, il produit une chaîne et il la fait distribuer par des distributeurs.
Alors pour répondre à Alain Veil qui disait SFR pourrait être amené à discuter avec Mediapro concernant les droits de la Ligue 1, qu'est-ce qui va se passer pour tous ces acteurs?
Je pense qu'Alain Veil parlait à la fois peut-être avec sa casquette SFR distributeur, SFR pourrait distribuer la chaîne de Mediapro. Il parlait aussi certainement avec sa casquette RMC Sport, qui lui est éditeur, et peut-être que Mediapro et RMC Sport pourra acheter, à condition que Mediapro soit d'accord pour lui vendre une partie des lots qu'il vient de gagner.
Virgile Caillet.
C'est le deuxième round des négociations qu'on attend tous avec impatience, parce que on entend le discours de Canal+, mais on connaît Canal+ et leur capacité à mener deux combats de front, à la fois un combat médiatique et un combat de négociation en parallèle. Donc j'imagine que tout ça est déjà engagé.
Canal+, il va y avoir des recours nécessairement. J'imagine. Je suis pas avocat de Canal+, je suis pas dirigeant de Canal+, mais
les dirigeants de Canal+ émettent des doutes. Mais les perdants émettent toujours des doutes dans une...
Maxime Saada, il minimise son échec. Hein. On a refusé la surenchère, on a proposé un prix qui correspondait à ce que nos abonnés peuvent payer.
Mais on va parler de Canal+ après, mais c'est vrai que la position de la chaîne est difficilement tenable à terme. D'un côté attaqué par les opérateurs OTT sur le cinéma, de l'autre privé des droits sportifs. C'était quand même son ADN. Au départ, l'ADN de Canal+, c'est du cinéma, du sport et de l'entertainment. Il reste l'entertainment qui marche pas très bien d'ailleurs, parce qu'il était tiré par tout le reste.
Cinéma, par le foot,
mais juste d'un mot pour revenir quand même sur la question que vous posiez, combien ça coûtera aux consommateurs, rappelons quand même que le foot français n'est pas cher. Le foot français, quand vous mettez bout à bout, imaginons que le prix de Mediapro ce soit autour de 30 €, mettez bout à bout l'ensemble des offres qui existent aujourd'hui sur le marché, entre ce qui sera l'offre RMC Sport avec la Ligue des Champions, la Ligue Europa, Bein Sport qui est à 17 ou 19 €, enfin qui est à moins de 20 € en tout cas, vous arrivez à un total de 60 € par mois. mois. C'est pratiquement la moitié que ce que paye un Anglais aujourd'hui pour voir l'ensemble de l'offre de télévision en Angleterre. Donc on reste un football qui est accessible, y compris pour les téléspectateurs.
Dernière question, parce que vous allez nous quitter, Didier Quillot. On restera évidemment avec Simon Tannenbaum, avec Pascal Perry, avec Virgile Caillet, parce que Canal, c'est quand même le grand perdant. Absent pour la première fois depuis 34 ans, donc est-ce que vous le regrettez? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a raté justement dans cette adjudication?
D'abord, je veux dire que Canal, c'est le partenaire historique du football français depuis 34 ans. C'est le canal qui a permis au foot français de grandir, de se développer, d'être là où il est aujourd'hui avec tous les partis pris éditoriaux. Je pense encore au témoignage très émouvant de Charles Biétry que j'ai entendu hier soir. Et donc Canal, c'est une histoire, une ADN dans le football. Donc, et ça va continuer à être le partenaire de la Ligue jusqu'en 2020. Oui. Donc ça, c'est voilà.
Après, c'est fini.
Ensuite, qu'est-ce qui n'a pas marché?
Des regrets ou pas?
Non, mais on regrette toujours des partenaires que l'on connaît depuis 34 ans. Mais moi, ma responsabilité, c'est pas d'avoir des regrets.
Jean-Michel Aulas dit ils ont manqué d'ambition sur cet appel d'offres.
Ma responsabilité, c'est pas d'avoir des regrets, c'est de développer le football français et de donner les moyens au club de grandir et de réussir et de lancer l'appel d'offres le meilleur possible au meilleur timing.
Ils ont manqué d'ambition, comme le dit Aulas ou pas?
Nous n'avons pas. Ils ont participé aux 7 enchères. Oui. Okay. Donc par rapport à la question précédente des recours. C'est extrêmement difficile de faire un recours contre un appel d'offres où vous avez vous-même participé 7 fois pendant l'appel d'offres. Et d'ailleurs, le courrier du groupe Canal Plus hier soir était très, positif de ce point de vue-là, en disant qu'ils allaient à partir de 2020 essayer de se rapprocher de Mediapro. Enfin, je ne sais plus les termes exacts du courrier, mais en tout cas, c'était une forme d'ouverture. Donc, quant au commentaire de Jean-Michel Aulas,
ils rachèteront pas moins cher, c'est même droit.
Moi, je ne sais pas anticiper des négociations.
C'est étonnant.
Je ne sais pas anticiper. Pascal, je vous laisse
examiner toutes les options, notamment des
commentaires, mais qui est assez frappé du bon sens d'un point de vue arithmétique, on va dire. Donc voilà. Après, ce qui s'est passé, nous n'avons pas compris la stratégie de Canal pendant les enchères séquentielles. Voilà. Donc,
c'est un coup de bluff. Fabrice, vous dire, les monsieur qui vous le dira pas, mais c'est un coup de bluff qui n'a pas marché.
Bon, vous savez quoi, on va y revenir dans 15 ans. On va parler de Canal, de l'avenir de Canal sans football. Alors provisoirement ou définitivement, je ne sais pas. Grand merci à Didier Quillot, donc le directeur général de la Ligue de football professionnel.
Merci.
À très bientôt, tout le monde. Vous restez là, Simon, Virgile et Pascal. On continue donc à l'issue de cette adjudication qui rapportera 1 milliard 150 millions d'euros au football français pour la Ligue 1. En attendant peut-être la Ligue 2, je ne sais pas. À tout de suite.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Voilà, on remercie Didier Quillot une nouvelle fois, le directeur général de la Ligue de football professionnel, qui est venu nous parler justement de la saison 2020-2024 de Ligue 1. Donc avec cette adjudication, on a dépassé le milliard, 1 milliard 153 millions d'euros par an pour la période 2020-2024, avec un gros gagnant, Mediapro, avec des gagnants moyens, Bein, Free, et puis grand perdant, Canal, on en parlera dans un instant. Oui, le milliard, pour revenir sur l'échelle, 1 milliard 153 millions d'euros, c'est... par rapport, on le disait, la Bundesliga, l'Allemagne, on est quasiment à égalité, au-dessus. Par rapport au football anglais, on voit les droits qui baissent. Qu'est-ce qui se passe, Virgile Caillet?
Exactement. Eh bien, c'est intéressant de voir ces courbes finalement se rapprocher, se croiser. Donc, on va, comme on le disait, vers une sorte de prix de marché un petit peu plus équilibré. Les Français progressent, les Anglais se stabilisent un petit peu parce que probablement qu'ils avaient dépassé les limites entendables ou raisonnables sur le plan économique. Donc on va vers quelque chose de beaucoup plus juste qui va également améliorer la compétitivité des clubs. Ça va nous permettre de parler des clubs et puis probablement réguler indirectement le marché des transferts qui était aujourd'hui de trop grosses différences entre la capacité des clubs anglais et les capacités des clubs français.
Double capacité, parce qu'il y a non seulement effectivement le poids des droits télé qui représente dans le top 20 européen, je regardais le rapport de loi, dans le top 20 européen, vous avez deux clubs, vous avez Southampton, qui est pourtant pas une grande équipe européenne, et vous avez l'équipe qui a été championne
Leicester,
dont les droits pour lesquels les droits télé représentent 80%. des revenus. C'est-à-dire qu'il y a une télédépendance qui est vraiment très significative. Vous ajoutez à ça le différentiel fiscal et social. Et en Angleterre, le coût du travail et le poids de la fiscalité sont évidemment très différents. Et vous avez un championnat qui a un avantage comparatif ou un avantage compétitif par rapport aux autres. Et effectivement, il restera à l'UEFA maintenant à réglementer le rôle des... à faire une sorte de fair-play financier, non pas pour les clubs, mais pour les agents.
Pour les agents,
qui
exactement.
Qui captent une partie importante, c'est jusqu'à 10% du prix des transferts, c'est considérable, et qui jouent un rôle terriblement inflationniste, dont nous payons le prix. Alors, on en a été en même temps les bénéficiaires, parce que les clubs français sont des clubs éleveurs, et donc, ça nous a permis de vendre nos talents, mais nos talents sont partis.
Ouais. Alors, un milliard pour quoi faire. Écoutez, Jean-Michel Aulas et Jacques-Henri Hérault, président de l'OL, président de l'OM. On revient tout de suite.
Ça va permettre au football français non seulement de rattraper le retard qu'il avait sur un certain nombre d'autres championnats, mais de se positionner dans une compétition qui est une compétition vraiment européenne.
C'est peut-être une nouvelle ère qui commence, en tout cas un tournant, c'est certain, qui va permettre, je pense, d'améliorer la compétitivité du football français.
Voilà, et ça va permettre quoi? Alors, Virgile Caillet, plus d'investissement, plus de recrutement, c'est quoi?
Des clubs français, ben, je pense qu'il y a une vraie responsabilité pour les clubs français aujourd'hui et pour la Ligue. Il y a un vrai travail d'accompagnement, voire de pédagogie, j'oserais dire. Il y a une vingtaine d'années, une trentaine d'années, lorsque les droits ont explosé, les clubs français ont très mal géré la situation. C'est-à-dire que l'argent qui arrivait à flot a servi à payer très cher des joueurs, pas toujours très bons, et qui n'apportaient pas finalement de valeur ajoutée au club, que ce soit en termes de billetterie, marketing, etc. Là, il faut pas rater ce virage-là. C'est remarquable ce qu'a fait la Ligue et d'obtenir ces montants-là. Je pense que personne n'espérait aller aussi haut dans les montants. Donc, ce qui va être déterminant pour les clubs, c'est de travailler sur un projet de club. Déjà, un, de ne pas dépenser tout de suite de l'argent qu'ils auront dans 2 ans. Hein, soyons raisonnables, ou travaillons sur des logiques, des vraies logiques d'investissement. Et surtout, ce qui me paraît déterminant, c'est de pouvoir faire fructifier leurs actifs. Pascal disait à juste titre, on est un pays d'éleveurs de talents, c'est tout à fait le cas, mais on les vend trop tôt, trop vite, avant qu'ils n'aient atteint leur plénitude économique.
Pascal Péric.
Tout simplement, un club de football, c'est une entreprise, et il faut que ce soit géré comme une entreprise, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une réserve de trésorerie, il faut qu'il y ait des fonds propres, il faut des outils de production, donc les stades, ceux qui ont été améliorés, reçoivent du public. D'ailleurs, je suis très agréablement surpris de voir que le stade de Lyon, le stade des Lumières, rencontre son public. Tous les stades qui ont été rénovés, à l'exception peut-être de celui de Nice, il y a un microclimat à Nice, mais bon, ces stades accueillent du public supplémentaire. Il faut investir sur ce qui dure et non pas sur ce qui brille. Ce qui brille ne dure jamais.
Alors, Canal+, quand même, hein, grand perdant, le titre Vivendi. Aujourd'hui, recul de 3,6%, plus gros recul du CAC 40. Évidemment, affecté, Simon, par la Simon Tenenbaum, par la perte des droits de la Ligue 1, donc par Canal+. Canal est un tournant de son histoire, c'est un tremblement de terre ce qui se passe depuis hier soir chez Canal.
Tremblement de terre, oui, tournant, on verra, c'est plus une période d'incertitude hein, pour Canal, qui finalement a plus vraiment son destin en main, puisque toute la question sera de voir effectivement est-ce que Mediapro est prêt, sous quelles conditions, à revendre, à redistribuer sa chaîne, est-ce que Canal du coup pourra continuer à avoir la Ligue 1 à partir de 2020, ou est-ce que Canal doit complètement changer son modèle, arrêter le foot et le sport et
pardon, aller... c'est envisageable, Simon Tenenbaum, justement, un Canal Plus sans football, ça fait 34 ans qu'ils diffusaient la Ligue 1.
Ils ont déjà réfléchi parce que le football ça coûte très cher, donc c'est pas forcément dans leur ils ont réfléchi à un modèle alternatif, un plan B qui serait d'arrêter le foot. Le problème, c'est que la transition risque d'être très compliquée. Le foot, c'est à peu près 40-50% des gens qui sont abonnés à Canal qui sont là pour le foot.
Combien? Quel pourcentage?
40-50%.
40-50%. Enfin, ah oui,
c'est 25% qui disent, à peu près un quart qui disent vraiment on s'est abonné uniquement pour le foot, et 40 à 50% qui pourraient partir s'il y avait plus de foot.
Ah oui.
Donc ça veut dire évidemment une baisse, diviser le chiffre d'affaires par deux.
Ils ont déjà perdu déjà beaucoup d'abonnés, hein. Sachant que 1 million en 5 ans.
Oui, sachant qu'ils regagnent des abonnés depuis à peu près septembre de l'année dernière.
Au même prix d'abonnement.
Il y a une nouvelle politique.
En tout cas, ils en regagnent un peu. en grande partie parce que la Ligue 1 est devenue plus attractive, parce qu'il y a eu Neymar, etc. Donc c'est quand même grâce au foot qu'ils ont repris quelques couleurs depuis à peu près un an. Donc l'équation économique sans le foot, sans ces millions d'abonnés qui pourraient partir s'il n'y avait plus de foot, elle serait forcément très compliquée.
Sans le foot et puis avec aussi l'autre jambe, hein, le cinéma, les Netflix, etc. quand même qui taillent des croupières.
Qu'est-ce qui va rester
à Canal Plus ?
C'est un effet ciseau qui est assez douloureux. Maxime Saada a réuni ce matin à 11h30 tous les équipes du service des sports pour débriefer sur l'appel d'offres. Je pense que l'ambiance était forcément lourde, un peu pesante, probablement même un peu triste et nostalgique parce que Canal, ça a été le grand diffuseur. Moi, je suis assez
grand soutien au football, ce qu'on rappelait tout à l'heure.
Mais même au-delà du soutien, c'est même quelque part Canal qui a, je vais pas dire créé la Ligue 1, mais
un innovateur,
quasiment quoi. Je veux dire, c'est toutes ces caméras, cette façon de filmer, ça vient de chez eux quand même.
C'est un modèle qui existe quasiment pas ailleurs. C'est-à-dire une chaîne qui fait à la fois du sport et du cinéma. Pour le coup, c'est un modèle un peu historique français, mais la preuve en est qu'à l'étranger, ça n'existe pas. Et donc, il y a peut-être une raison aussi pour laquelle c'est difficile de concilier les deux avec des publics qui sont pas toujours les mêmes entre les fans de séries et les fans de sport. Et le fait d'aller vers un modèle à la HBO, c'est-à-dire une chaîne premium dans le cinéma et les séries, pour le coup, il y a une logique quand même du côté de Canal.
Pascal le disait tout à l'heure, en fait, on est un peu surpris par la stratégie adoptée par Canal durant cet appel d'offres. Manifestement, alors on n'était pas dans le secret des dieux, parce que vous l'avez compris, ça s'est vécu comme un polar, hein, chacun était dans une pièce sécurisée, sans téléphone, sans rien, enfin bon. Mais néanmoins, d'après les échos que l'on en a, c'était vraiment une stratégie défensive, purement défensive, avec comme principal objectif de sursoir à l'appel d'offres, de faire en sorte qu'il soit infructueux, manifestement, de ce que j'ai pu comprendre. Voilà. Donc c'est là où probablement il y a incompréhension et que derrière, c'est effectivement difficile de trouver les bons éléments de langage pour dire mais si, on veut encore du football et je vois pas comment ils vont pouvoir racheter auprès de Mediapro des lots qui ont été payés extrêmement cher.
Pascal Perry, oui, Canal, il y a une vie sans football ?
Bah oui, je pense qu'il y a toujours une vie sans football. Alors sur la question des subdélégations, parce qu'il s'agit de ça en réalité, le football doit représenter un volume suffisant sur la chaîne. Alors faut rappeler que Canal a le rugby, d'autres sports, c'était une offre assez large, c'était une offre un peu 360 degrés. Mais le football, c'est quand même le principal produit, et quand on n'a pas le minimum, il suffit pas d'avoir un match de temps en temps pour être une chaîne de sport, pour être une chaîne de football. Quand on n'a pas le minimum, ça marche pas, si vous voulez. Donc il y a un effet taille critique. L'avenir de Canal, c'est probablement, Simon le traçait, c'est de devenir un diffuseur premium de cinéma et de séries, un peu sur le modèle HBO, dans une stratégie de différenciation et de création. On le dit pas suffisamment, mais Canal est un des principaux soutiens de la création du cinéma, bien sûr, en France.
Et
je pense que son avenir est plutôt là maintenant que dans le football. Enfin, après 2020.
Se réinventer comment, Simon, pour Canal Plus ?
Oui, parce qu'il y a, enfin, il y a aussi une inflation des coûts de production des séries aujourd'hui qui ont augmenté en qualité. Donc c'est un combat assez difficile à mener pour Canal. La hausse des prix du foot et la hausse de prix de production des séries. Et donc effectivement, est-ce que les ressources qu'ils vont pouvoir dégager s'ils ne financent plus de football, ils pourront peut-être le mettre dans des séries, parce qu'aujourd'hui ils ne financent pas suffisamment de séries, et sans doute pas des séries assez chères, pour pouvoir vraiment s'imposer sur ce marché-là.
Ouais, et pourtant, estimant que Canal avait bien entamé son redressement, Vincent Bolloré donc, avait quitté le mois dernier la présidence du conseil de surveillance de sa filiale, remplacé par Jean-Christophe Thierry. Redressement, vraiment, franchement, peut-on parler de redressement ou pas, Simon Tenenbaum ?
Il y a eu un petit frémissement sur les audiences. C'était un redressement surtout dans la stratégie commerciale. Mmh. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, il fallait acheter Canal Plus 40 euros, il n'y avait pas d'autres options. Ça, c'était un modèle qui fonctionnait plus très bien. Ce qu'a réussi objectivement à faire Canal Plus, c'est d'avoir des nouveaux deals avec les opérateurs télécoms qui permettent de mieux distribuer la chaîne, de la vendre plus largement, et puis de la vendre sur Internet à des tarifs plus attractifs. De ce point de vue-là, oui, il y a eu une révolution. production, dans la manière dont est vendu Canal+. Après, sur le contenu, là, il y a encore beaucoup de choses à faire.
Pas assez de produits, pas assez de clients. C'est une règle de base du commerce. Il faut pouvoir aujourd'hui segmenter son marché. Plus, ouais. Il y a des gens qui sont prêts à acheter Canal+ sur Internet, sur le modèle OTT. Il y a des gens qui probablement seraient intéressés par le cinéma, d'autres qui l'auraient été par le sport. Donc, plus l'assortiment est large, c'est la politique d'un supermarché. Oui, c'est ça, c'est ce qu'il fallait faire, mais peut-être un peu plus tôt. Il fallait le faire avant l'hémorragie, parce que 40 euros, malgré tout, c'est une somme, quand on l'ajoute à d'autres abonnements qu'on souhaite financer,
box, etc.
Y compris télévisé, quand on veut voir du football.
Et Virgile Caillet, allez, quasiment le mot de la fin.
Non, bah globalement sur cet appel d'offres, moi je vais pas employer le terme de sophistiqué, je vais plutôt employer le terme de chirurgical, parce que la construction des lots correspondait finalement à des besoins de programmation des différentes chaînes. Je ne pense pas au moment où la Ligue a construit son appel d'offres qu'il envisageait l'arrivée comme ça d'un OVNI Media Pro, mais en tout cas c'est une formidable réussite. Incontestablement, on passe dans une nouvelle ère.
Dans la cour des grands, c'est la question que je posais.
Je pense qu'on est dans la cour des grands.
Je voudrais juste vous dire.
Pascal Perry, puis on se dit au revoir.
Les droits télé augmentent, le public revient dans les stades.
On a des stars.
On a des stars. Le championnat est relativement intense. Les investisseurs étrangers s'intéressent au football français. Pourquoi d'ailleurs ? Parce que c'est le dernier football qui est accessible. Pour rentrer dans le championnat anglais aujourd'hui, il faut investir des sommes considérables. Pour rentrer dans le championnat allemand, il faut accepter le fait d'être minoritaire, puisque les associations continuent de contrôler 51% du capital des clubs. Puis il y a déjà des industriels. Le football espagnol, lui aussi, coûte cher. Le foot français, c'est le dernier grand terrain de chasse des investisseurs.
Merci à tous. Merci Pascal Perry, économiste, directeur de PNC Économique. Simon Tenenbaum, reporter à BFM Business, spécialiste des médias. Et puis Virgile Caillet, délégué général d'Union Sport et Cycle. Et puis tout à l'heure, c'était Didier Quiot qui nous accompagnait, le directeur général de la Ligue de football professionnel. C'est fini pour les décodeurs de l'écho. Reviens très très vite.
Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.